7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, ravie d'être avec vous, les voisins, les voisines. C'est l'été et c'est vraiment la période des camps scouts. Allons à la rencontre de ce mouvement qui se porte bien, figurez-vous. Le scoutisme est en pleine expansion en France et dans le monde, où l'on compte quelques 50 millions de scouts et guides. Alors pourquoi un tel succès? On aurait pu croire qu'apprendre à faire du feu, fabriquer un abri ou dormir dans la forêt, prier ensemble, ça appartenait au passé, mais non, les jeunes et les parents adorent ça. Alors quelles expériences vivent les scouts? Est-ce que les pratiques ont évolué avec le temps? Pourquoi les parents envoient leurs enfants en camp scout? Et est-ce réservé aux bonnes familles catholiques? On en parle aujourd'hui avec deux invités, deux scouts et guides de France. Nicolas Bertrand d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes aussi directeur du rassemblement Europe qui se tiendra à Strasbourg du 16 au 23 juillet. Donc c'est bientôt, hein, c'est dans 7 jours, vous êtes en pleine préparation. Vous attendez combien de personnes,
hein? On attend 15 000 participants qui arrivent de 28 pays différents.
Et ils auront entre quel âge
Alors, un rassemblement pour les 14-17 ans, autour, entre autres, de l'engagement autour de la citoyenneté européenne.
Donc tout ça à Strasbourg. Également, ça fait du monde hein, quand même, Jean-Jacques Gauthier avec nous, historien du scoutisme. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également membre du conseil d'administration des scouts et guides de France et vous avez écrit « Idées reçues sur les scouts aux cavaliers bleus ». Ça vous a plu cette idée? Il y a beaucoup d'idées reçues hein, justement sur les scouts.
Alors, il y a évidemment beaucoup d'idées reçues sur les scouts et bon, l'intérêt de cette collection, c'était de permettre de présenter un sujet en fait au travers des idées reçues qu'il y avait dessus. Donc, je développe des idées du type l'ABA c'est ringard, le scoutisme s'est dépassé, pour évidemment les démonter.
Vous n'êtes pas venu en tout cas en culotte courte aujourd'hui, bien que vous soyez tous les deux scouts. Donc.
Oui, tout à fait, absolument.
Okay. Et pas de foulard non plus. Alors, nous aurons également dans l'émission Gilbert Moussoumba, qui est responsable de la Fédération Scout de la RDC, parce qu'en Afrique aussi, hein, c'est en pleine expansion. Et pour vivre un camp scout de l'intérieur, nous aurons Quentin Winisdorfer, qui est chef scout au Scout Unitaire de France. Il est actuellement dans un camp en Bretagne et nous l'aurons en direct dans quelques instants. Les voisins, les voisines, si vous avez été louveteau, scout, guide, qu'avez-vous appris? Racontez-nous expériences de scoutisme. On attend vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors, de nombreux messages hein, sur Facebook, les auditeurs ont été, ils ont beaucoup participé à ce mouvement de scoutisme. Il y a par exemple Sanda Lomé, alors lui, monter le drapeau, aller au camp, oh là là, la nostalgie, c'était passionnant, je fredonne encore les chansons. Il y a Salem qui se souvient aussi du plaisir de retrouver sa famille scout, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, sa famille scout. Djibril à Kaïs au Mali, alors bah, lui, il a pris l'art de survivre dans des situations parfois difficiles. Donc ça lui a bien servi dans la vie. Et une note plus sombre, Abdallah du Burundi nous dit: moi j'ai fui le scoutisme car on me frappait tout le temps. Alors continuez les auditeurs à nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71 ou échanger sur Facebook.
Un monde tout en bleu, des projets plein les yeux, des terres à explorer avec ma tribu.
Être scout aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez cette chanson, Nicolas Bertrand et Jean-Jacques Gauthier?
Oui, bien sûr.
C'est la chanson, c'est l'hymne, on peut dire ça, c'est l'hymne des scouts ou non?
C'est une chanson, c'est de la branche 11-15 ans de Scout Guide.
Alors, Nicolas Bertrand, vous êtes en train d'organiser, de préparer ce grand rassemblement Europe qui se tiendra à Strasbourg, donc du 16 au 23 juillet. Quel est votre totem?
Alors, moi, j'ai pas de totem.
Ah non, et ça non. Commence mal.
Mais peut-être,
Jean-Jacques. J'ai pas non plus de totem.
Ah, mais moi, je croyais que ça faisait partie des codes. Alors, je n'ai jamais été scout non plus, mais ça faisait partie des codes. On avait un totem et on tenait sa promesse.
Voilà, alors, certains ont des totems ou ont eu des totems. Je peux vous dire que ma femme est totémisée Alouette.
Alouette.
Alouette, absolument. Mmh. Mais ceci dit, les associations en France, tout au moins, sont relativement prudentes sur ce type de cérémonie qui a pu donner lieu à des excès. Par contre, que la promesse, c'est un engagement tout à fait important. C'est le moment où le jeune garçon ou fille fait le choix de dire, ben oui, je fais du scoutisme ma règle de vie. Et il s'engage publiquement face à tous ses camarades. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'essentiel qu'on retrouve dans tous les mouvements scouts et guides dans le monde entier.
Mmh. Nicolas Bertrand, vous êtes plutôt jeune, hein, vous êtes entré dans le mouvement à quel âge et pour quelle raison ?
Je suis entré dans le mouvement à 8 ans, le cadet d'une famille de 5 garçons. Et puis voilà, je crois que mes parents ont retrouvé plein de choses, plein de valeurs dans le scoutisme et en y mettant mes frères aînés. Et j'ai suivi la lignée familiale voilà, en tant que scout. Hein.
Alors qu'est-ce qui fait que c'est en pleine expansion ? On le disait, hein, moi j'ai trouvé ça assez inattendu, on pourrait penser que ça appartient au passé.
Ben, manifestement, ça répond à des besoins constants de la jeunesse. L'adolescence, c'est le moment où on forme sa personnalité, on a envie de vivre des expériences différentes, on se découvre, on découvre le monde, on découvre tout ce qui nous entoure. Donc le scoutisme, il a été conçu comme un outil de réponse à des besoins de la société au début du XXe siècle, et manifestement, ces besoins existent toujours aujourd'hui.
Oui, parlons de la création, ça a plus de 100 ans. Hein. Quelle était l'ambition du mouvement au départ, Jean-Jacques Gauthier ?
Ben, l'idée de Baleine Powell, en fait, c'est de bâtir un outil éducatif pour répondre aux besoins de son temps. Alors lui,
donc lui, c'est vraiment le fondateur.
C'est hein, le fondateur,
Robert Baden Powell.
Robert Baden Powell, donc en 1907 en Grande-Bretagne, donc dans un moment où la Grande-Bretagne est le premier empire au monde, et Baden Powell craint la décadence de son pays. Donc il veut forger un outil éducatif qui permettra à l'Angleterre de garder son rôle dans le monde. Donc pour ça, ben, il s'intéresse aux questions éducatives alors qu'il est militaire et qu'il a 50 ans. Hein. C'est plus du tout un jeune homme.
Oui, mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il était mauvais à l'école, il faisait l'école buissonnière. Hein.
Absolument. Et c'est bien pour ça que le scoutisme, c'est pas du tout quelque chose de. C'est quelque chose qui se vit. C'est pas du tout quelque chose qui se fait de manière théorique. C'est pas du tout un enseignement. C'est quelque chose qui se vit dans la nature, dans les camps. Et Baden Powell, ça, il le comprend fort bien en s'inspirant notamment de ce qu'il a vécu de son expérience militaire.
Donc c'est vraiment des principes d'éducation basé sur le jeu, la nature, comment il a fondé tout ça ?
Oui, basé sur le jeu, la nature, et puis je crois que le scoutisme, s'il va aussi bien aujourd'hui, c'est aussi parce que chez les scouts et guides de France, on a un choix de dire un adolescent, en tout cas je vais parler pour cette tranche d'âge que je connais un peu mieux, un adolescent en 2015 n'est pas un adolescent en 1990 et n'est pas le même que celui de 1965.
Il doit laisser son smartphone à l'entrée de la forêt.
Et ben, justement, en fait, on a deux solutions, où on reste en 1965 et on laisse son smartphone à l'entrée de la forêt, où on se dit on a une génération Z aujourd'hui, une génération qui a jamais été aussi connectée à tout ce qui se passe dans le monde. Comment on est capable de continuer à avoir une méthode d'éducation qui intègre cette question-là ? Pourquoi pas imaginer le traditionnel jeu de piste avec des azimuts à la boussole, avec, je sais pas, des QR codes sur les bornes pour retrouver les indices ? Je crois que c'est aussi ça la force de ce mouvement, c'est s'adapter au public qu'on a aujourd'hui et s'adapter aux jeunes tels qu'ils sont dans la société dans laquelle ils vivent. Les scouts et guides de France sont un mouvement qui vit dans la société.
Il faut quand même signaler que c'est un mouvement catholique.
Alors, les scouts et guides de France sont un mouvement catholique, mais il existe en France des scouts d'autres sensibilités. Il y a des scouts juifs, il y a des scouts laïques, il y a des scouts musulmans, et des scouts protestants. L'idée de Baden Powell, c'est de dire le scoutisme, il doit avoir parmi l'un de ses buts la recherche spirituelle. Baden Powell, lui, est anglican. Mais il dit, il faut une recherche spirituelle, il faut rechercher Dieu. Alors après, il précise pas quel Dieu. Donc en fait, le scoutisme est adaptable à toutes les grandes traditions religieuses ou spirituelles de l'humanité.
Mais dans cette recherche de Dieu, ça veut dire qu'il y a des temps spirituels, il y a des temps de prière ensemble. Quand on est au scout et guide de France.
Oui, des temps qu'on peut appeler temps spirituels, des temps de partage. Je crois que c'est à la fois un temps qui permet aux jeunes de se retrouver tous ensemble et puis de se retrouver individuellement. Je vais prendre l'exemple de la tranche d'âge des adolescents. Tous les jeunes de 14 à 17 ans chez les scouts de France, scouts et guides de France, ne sont pas catholiques. Évidemment, à 14-17 ans, on a des jeunes qui sont en recherche de chemin de foi, qui cherchent à tracer leur route. Et je crois que proposer un temps spi ou un temps spirituel, c'est leur proposer un temps de pause, un temps d'arrêt dans lequel on peut se retrouver. Et je crois que dans ce monde et dans l'hyperactivité dans lequel vit cette génération, offrir ces espaces pour se retrouver, ouais, c'est une vraie richesse.
Alors vous parlez de richesse, est-ce que le recrutement se fait surtout dans les beaux quartiers, auprès des belles familles, enfin c'est l'image qu'on en a, plutôt
non,
enfant de bourgeois quoi.
Non, d'ailleurs pour conforter ce nom, peut-être dire qu'il y a 2 ans en Assemblée Générale, les Scouts et Guides de France ont fait un choix d'indexer les cotisations sur le quotient familial. L'idée étant d'ouvrir, enfin de permettre une accessibilité plus large au scoutisme. Aujourd'hui, le scoutisme ne se cantonne pas au beau quartier. Le scoutisme, je crois, Jean-Jacques le disait tout à l'heure, dans la création par Baden-Powell, s'adressait à un public peut-être éloigné tout ça. Baden-Powell était peut-être le cancre qu'on décrivait tout à l'heure, en tout cas qui faisait cette école buissonnière. Aujourd'hui, le scoutisme a plutôt pour vocation d'aller aux périphéries de nos villes, d'aller dans nos campagnes et se dire que ben là où il y a des jeunes, ce mouvement de l'éducation a sa place et on doit retrouver les scouts un peu partout.
On le verra plus tard, effectivement, c'est aussi en plein développement, en plein essor dans les banlieues. Le mouvement scout aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, on écoute un peu de chansons, d'abord une musique, Soleil Chaleur de Ariane Moffat. Ressemble l'aventure dans un camp scout? Eh bien, l'été, c'est vraiment la période des camps. Alors, combien partent cet été, vous le savez, Nicolas Bertrand?
Oui, on a 51 000 jeunes chez les Scouts et Guides de France et on a 98% de jeunes qui partent en camp cet été.
Donc, c'est une bonne manière de passer son temps de vacances. Et là, nous sommes avec Quentin Winisdorfer, qui est chef scout au Scout Unitaire de France. Bonjour, Quentin.
Bonjour à tous.
Ben merci d'être avec nous en direct depuis un camp en Bretagne, au Bois-Rioux. Vous êtes, alors vous allez passer trois semaines de vacances. Je sais pas, c'est une colonie de vacances aussi, on peut dire ça?
Alors non, ce n'est pas une colonie de vacances. Le scoutisme, c'est un peu plus parce que c'est quand même une activité qui dure toute l'année. C'est des jeunes que l'on connaît pendant toute l'année et il y a une vraie progression qui se fasse dans le scoutisme. Dans une colonie de vacances, il n'y a pas autant d'autonomie qui sont données aux jeunes. Donc, c'est vraiment un camp. Ce n'est pas une colonie. Nous marquons cette différence parce que les scouts sont acteurs, justement, de l'avancée de ce camp, alors que dans une colonie, généralement, tout est encadré pour que tout se passe bien. Donc, on fait la différence avec une colonie parce que il y a, justement, tous ces scouts qui sont moteurs de l'activité.
Et quand vous dites plus d'autonomie, est-ce que ça veut dire qu'ils font à manger, qu'ils font le ménage, qu'ils font tout ce qu'on ne fait pas forcément ailleurs?
Bien sûr, on arrive dans une forêt où il n'y a rien, tout est à faire. Donc on est arrivé hier et là ils sont en train de construire des plateformes pour mettre leurs tentes par-dessus afin de se faire des lits. Ils font des tables, ils font des tables à feu pour après faire la cuisine. Ils sont vraiment en autonomie. Donc il y a 5 patrouilles dans notre troupe et donc les patrouilles fonctionnent toutes seules. Il y aura aussi des moments pendant le camp où elles se retrouveront seules, donc sans les chefs, sans les encadrants. D'autres moments où même les scouts se retrouveront tout seuls pendant 2 jours par groupe de 2 ou 3. Ça c'est sans les.
Ah oui, donc c'est vraiment une situation, pas vraiment de survie quand même, vous arrivez avec des vivres.
On arrive bien sûr avec des vivres, on se charge de tout ce qu'il faut effectivement pour les nourrir. Mais après, il faut pouvoir s'installer, il faut pouvoir vivre une vie de camp tous ensemble. Et ça, c'est le principe d'un camp, c'est créer justement cette société pour que tout le monde vive en communauté. Et en revanche, tout le monde doit mettre la main à la pâte.
Donc c'est quand même une vie à la dure, il n'y a pas d'électricité, on cuisine au feu de bois, on dort sous la tente.
Exactement, une vie à la dure, mais une vie simple surtout, et c'est ça qu'on recherche dans les camps. La simplicité du camp, c'est ce qu'on propose justement aux jeunes.
Donc c'est effectivement ce que j'entends, c'est que les jeunes ne sont pas des consommateurs qui mettent les pieds sous la table. Et vous, votre mission en tant que chef de troupe, c'est quoi ?
Alors notre mission en tant que chef de troupe, c'est de les accompagner dans ce camp, c'est évidemment de veiller à tout ce qui est sécurité, donc l'encadrement, l'utilisation des outils, nous nous occupons évidemment de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est course, tout ce qui est soins, nous sommes vraiment des encadrants pour que la vie se fasse par eux ensuite. Donc nous sommes en retrait et tout se passe sur le camp avec eux, nous avons évidemment des moments en troupe avec nous, il y a toute une vie de troupe. Alors la troupe, c'est tout le monde en même temps. Il y a aussi la vie de patrouille où justement ils sont en autonomie. Et nous, notre rôle, c'est donc de les accompagner pour que ça se passe au mieux et qu'ils arrivent à construire une vie de camp.
Et alors vous, Quentin, en étant au scout unitaire de France, ça veut dire que c'est mixte ou pas ?
Alors au scout unitaire de France, non, ce n'est pas mixte. C'est juste un camp, là on est 36 garçons. De 12 à 17 ans, du coup, Scout Unitaire de France unit les tranches d'âge, ce qui n'est pas le cas dans certains mouvements. Donc, tout le monde est ensemble, garçons, pour que le plus vieux apporte au plus jeune.
Et ça vous manque pas, les filles?
Alors, non, en fait, pendant 3 semaines, on peut tout à fait vivre sans. Ce n'est pas contre les filles non plus, mais c'est parce que le jeune se confie et se libère plus facilement quand il est entouré de garçons de son âge. Et c'est dans une lutte de progression que ça a été fait comme ça chez les scouts unitaires de France.
Donc ça, c'est votre choix, Quentin. Vous avez choisi ce mouvement-là aussi pour ça ?
Oui, j'ai choisi ce mouvement-là pour ça, pour le fait qu'il y ait donc de 12 à 17 ans un vrai apprentissage du plus vieux qui apprend au plus jeune qui grandit, qui s'épanouit. Il y a vraiment une progression remarquable du coup pendant ces 5 années et une progression qui, on va pas se cacher, peut être altérée par la présence de filles sur un camp. Si pendant un camp de 3 semaines, effectivement, il y avait des filles, je pense que les jeunes agiraient d'une manière un petit peu différente.
Alors je sais pas si nos invités partagent votre sentiment. Jean-Jacques Godet, par exemple.
Les scouts unitaires de France ont fait un choix pédagogique tout à fait honorable. Hein. Alors les scouts et guides de France ont fait un choix pédagogique qui est différent, mais ça c'est la richesse du scoutisme en France d'avoir des associations qui permettent aux parents ou aux jeunes de s'engager en fonction des choix qu'ils font.
Parce que vous, il y a des mouvements, enfin c'est mixte. Hein, scouts et guides de France.
Alors, les scouts et guides de France sont un mouvement essentiellement mixte. Il y a un certain nombre d'unités qui ne sont pas mixtes. Il y a les deux choix pédagogiques sont possibles dans notre association. D'autres associations sont entièrement mixtes, d'autres ne le sont pas du tout.
Je voulais vous remercier, hein, Quentin Winisdorfer, d'avoir été avec nous en direct depuis votre camp.
Bon camp à toi. Hein.
Merci beaucoup. Et puis je me félicite justement qu'il y ait autant de scoutisme différent qui propose toutes les formes aux jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir.
Est-ce que vous avez un totem, vous, Quentin ? Parce que mes deux invités n'en avaient pas.
Non.
Non. Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Nicolas Bertrand, vous restez avec nous, hein, et Jean-Jacques Gauthier, historien du scoutisme. On continue dans 3 minutes avec le flash, les voisins, les voisines. Appelez-nous pour nous parler de vos expériences de scout ou poser vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. On se retrouve dans 3 petites minutes tout de suite après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines. Merci de nous rejoindre sur RFI. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus. Parole du fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell, qui date de 1907. Et aujourd'hui, comment se porte le scoutisme? Ça va bien, merci. Le mouvement est en pleine expansion dans le monde. On compte quelques 50 millions de scouts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le slogan « Scout toujours » ? Quels sont les principes du mouvement ? Quel impact aussi a le scoutisme sur une vie ? On en parle aujourd'hui avec Nicolas Bertrand de Scout et Guide de France, directeur du rassemblement Europe, qui se tiendra à Strasbourg du 16 au 23 juillet. Et avec nous aussi l'historien du scoutisme Jean-Jacques Gauthier, qui est aussi membre du conseil d'administration de Scouts et Guides de France. Et vous avez publié « Idées reçues sur les scouts » aux éditions du Cavalier Bleu. Qu'est-ce que vous a appris, je dirais, les choses qui vous ont appris, que vous vous souvenez le plus dans votre vie en tant que... les choses qui vous ont marqué, Nicolas Bertrand? Moi, qui vous servent le plus dans votre vie?
Ouais, je dirais l'esprit d'équipe, le travail en équipe. On entendait tout à l'heure ce chef qui disait les jeunes vivent en patrouille, donc une petite équipe de 5, 6, 7 personnes. Je crois que vivre en équipe, c'est aussi à 14, 17 ans, en tout cas cette tranche d'âge dont je m'occupe, c'est une projection sur la vie que ces jeunes auront dans quelques années, dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, dans les engagements associatifs dans lesquels qu'ils auront. Avoir une répartition des tâches dans l'équipe, avoir une répartition des missions, planifier un projet, se dire que, par exemple, pour le camp d'été, on a envie de construire des tandems avec des vélos et de partir de Paris pour aller jusqu'à Strasbourg. Comment on récupère le matériel, comment on a un plan d'action sur la construction de ces tandems. Et je crois que cette répartition des tâches, cette organisation, c'est faire confiance à chacun, c'est se dire que on a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir construire un projet, et peut-être qu'à plusieurs on arrive à aller plus loin.
Et vous, Jean-Jacques Gauthier, qu'est-ce que vous avez appris qui vous sert le plus dans votre vie d'adulte?
Je crois que Nicolas a tout dit. Cette dimension-là, effectivement, elle est essentielle. Et moi, je rajouterais aussi que, en ce qui me concerne, la dimension spirituelle, catholique en ce qui me concerne, c'est également quelque chose qui m'a que j'ai découvert et que j'ai beaucoup enrichi grâce au scoutisme. Je crois que l'immense intérêt du scoutisme, c'est que ça permet en fait de découvrir les différentes facettes de sa propre personnalité. Donc pour les uns, ça sera effectivement la vie d'équipe, pour d'autres ça sera une dimension spirituelle, pour d'autres ça sera telle ou telle activité manuelle ou autre qu'ils vont découvrir au sein du scoutisme.
Alors nous avons tout de suite Raymond Blaise qui nous appelle du Burundi, et Raymond a été scout aussi depuis qu'il a 4 ans. Bonjour Raymond.
Bonjour Sandrine, bonjour les voisins.
Merci de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On écoute votre témoignage.
Je m'appelle Raymond Blaise, je vous appelle de Bujumbura, je suis scout. Pour moi, le scoutisme est un espace de socialisation, une école de la vie, grâce à sa loi, ses principes, sa méthode, sa pédagogie et son éducation non formelle. En effet, au Burundi et dans les grands lacs africains par exemple, grâce au projet Amana Mahoro, le scoutisme mobilise des jeunes pour lutter contre les préjugés ethniques et contribuer au changement d'une paix durable.
Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vivre mieux ensemble.
Bien sûr.
Alors Raymond Blaise, j'ai peut-être une question. Est-ce que vous portez aussi un uniforme, par exemple, au Burundi?
Oui, on a un kaki complet, pantalon et une chemise kaki.
Et est-ce que ça vous coûte cher d'être scout?
Non, c'est un guet social, c'est une famille. On est encadré, on est en cohésion avec les autres, on apprend à s'entraider mutuellement, à être quelqu'un de responsable. On aide les autres sans distinction de race, d'ethnie par exemple, ce qui est sensible chez nous. On essaie d'aider chacun, de responsabiliser les enfants à la base. C'est-à-dire que être scout, c'est vraiment gagner, c'est rien de perdre.
Donc on entend vraiment que c'est quelque chose qui vous a rendu meilleur. Hein. Merci beaucoup hein, Raymond Blaise pour votre témoignage. Jean-Jacques Gauthier, vous voulez réagir ?
Oui, ben, je crois que ce que dit Raymond pour le Burundi est tout à fait applicable pour l'ensemble du monde entier. Le scoutisme, effectivement, se définit comme une fraternité mondiale. Donc, c'est justement les termes qu'il a employés. Et l'uniforme scout, effectivement, l'idée qu'il y avait au départ, c'était, au moins chez Baden-Powell, c'était effectivement d'uniformiser et de faire en fait de traduire dans les de manière vestimentaire cette dimension de fraternité et de gommer les différences.
Et c'était l'art effectivement de faire la paix hein, de ce que j'ai lu. Et alors dans l'uniforme, pourquoi un uniforme ?
Ben l'uniforme, c'est justement un moyen de combler des différences sociales qui à l'époque, au début du XXe siècle, se voyaient énormément au travers des vêtements. Donc cette idée, c'est effectivement de montrer que on fait tous partie d'une fraternité. Alors l'uniforme,
c'est très anglais.
Oui. Et puis la tenue est très différente d'une association à l'autre. Il y a quand même en général une pièce d'uniforme, une pièce de tenue qui est commune aux scouts du monde entier, c'est le foulard. Parce que le foulard, c'est effectivement le symbole finalement du scoutisme.
Et en quoi ce foulard est un symbole
hein ? C'est Baden-Powell qui l'avait souhaité. Ça sert à un tas de choses. Alors dans les vieux manuels scouts, on expliquait les multiples utilisations possibles. C'est en fait un symbole. Ça peut servir tout simplement pour des jeux. Ça peut servir également pour d'autres activités. Mais c'est finalement une pièce d'habillement très originale qui se porte autour du cou et qui est le symbole des scouts et des guides du monde entier.
Alors on enchaîne aussi avec Dustan qui a 20 ans et qui nous appelle de Porto Novo au Bénin. Bonjour Dustan.
Oui, bonsoir Sandrine, bonsoir les voisins.
Alors merci de nous appeler parce que vous deviez avoir cours et en fait le professeur est pas là je crois. Donc on peut vous avoir à l'antenne. Alors racontez-nous parce que vous êtes un tout nouveau scout.
Oui, je suis nouveau scout. J'ai fait ma promesse il y a 3 semaines. Et vraiment, ça a été une joie pour moi, puisque avant de faire la promesse, j'ai participé à plusieurs activités du scoutisme, j'ai participé à un projet de messager de la paix. J'ai participé aussi à la journée de l'arbre qui a été organisée par le district du scout dans ma localité. Et ce qui, moi, particulièrement m'a poussé à être scout, c'est la façon dont les scouts animent. Puisque chez nous ici, les scouts, ils se regroupent souvent en groupe et ils animent. Et aussi, il y a la tenue qui m'a beaucoup séduit et qui m'a poussé à aller voir ce qui se passe là-bas.
Ah, c'est la tenue qui vous a intrigué.
Oui, la tenue, ça m'a beaucoup séduit. Et c'est là que j'ai eu la vocation d'aller découvrir ce qui se passe au scoutisme. Donc, une fois, quand j'étais là-bas, j'ai eu toute une autre réalité, puisque quand on nous a fait le cours sur l'historique de Baden-Powell, ça m'a beaucoup touché. Surtout, le fait qu'ils disent de faire tout possible pour rendre le monde plus meilleur que comment nous l'avions vu, ça m'a beaucoup touché. Et maintenant, je crois que je veux aussi être comme Baden-Powell. Je veux être un guide pour la société.
D'accord, vous allez donc prolonger votre engagement et devenir guide. Merci beaucoup hein, Raymond, merci Doustan pour votre témoignage. Est-ce que effectivement il y a une sorte de prolongement comme ça en général quand on est louveteau, scout, beaucoup après continuent bénévolement, il faut le dire, pour être guide, Nicolas,
oui.
Bertrand.
Il existe une vraie continuité, souvent un jeune qui a été dans le mouvement en tant qu'enfant ou adolescent, continue souvent l'engagement et souvent ça, la phrase c'est de dire j'ai envie de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné, donc moi-même j'encadre des jeunes. Après je crois que c'est important de dire aussi aujourd'hui chez les scouts et guides de France, 17 000 adultes bénévoles, c'est un peu plus de 2 000 adultes qui chaque année rentrent dans le scoutisme sans en avoir fait étant jeune. Je crois aussi que le scoutisme n'est pas une communauté, ou en tout cas pas une communauté fermée, et qu'elle est ouverte, et qu'aujourd'hui, de nouveaux jeunes, de 18 à 25 ans, plus de 2000 chaque année, choisissent de s'engager et au service des plus jeunes.
Alors cette ouverture, elle est peut-être liée aussi aux objectifs assez ambitieux. Hein. J'ai vu que la Fédération mondiale voudrait passer à 100 millions de scouts en 2023. Il y en a à peu près 50 millions aujourd'hui, donc il va falloir doubler les effectifs. C'est sacrément ambitieux. Comment vous allez faire ça ?
C'est sacrément ambitieux. En même temps, je crois que la croissance du mouvement aujourd'hui chez les scouts et guides de France peut laisser présager qu'on a les moyens d'y arriver. Je crois qu'on a un projet éducatif qui nous permet d'éduquer des jeunes, de les rendre heureux, citoyens, engagés, artisans de paix. Je crois qu'aujourd'hui, notre travail, c'est juste d'aller porter ce message,
d'aller recruter,
d'aller chercher de nouveaux adultes.
Alors exactement. J'ai vu qu'effectivement il y avait beaucoup de recrutement maintenant en banlieue. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'adeptes en banlieue?
Aujourd'hui,
dans les quartiers difficiles.
Le scoutisme n'a pas vocation à se développer uniquement dans les centres-villes. Le scoutisme, c'est une méthode d'éducation pour les jeunes. Et a priori, des jeunes, il y en a un petit peu partout. Et je crois que c'est la première volonté, c'est de se dire que aujourd'hui, proposer à des jeunes, quelle que soit son origine sociale, de vivre des activités, de vivre une méthode d'éducation qui porte le respect de l'autre, qui porte la vie en collectivité, avec une méthode qui est celle du jeu et de jouer ensemble. En fait, elle séduira un jeune qu'il habite en ville ou aux périphéries des villes.
Est-ce que ça peut s'expliquer, enfin, ce développement dans les banlieues, par exemple, par la crise, car vous proposez quand même des activités périscolaires ou des camps d'été qui sont pas chers?
C'est sûr.
Plutôt que de rester à rien faire au bas de l'immeuble.
Je suis pas certain que le contexte de la crise soit le facteur de développement. Le facteur de développement, à mon avis, principal, c'est la recherche aujourd'hui de nombreuses familles à avoir des lieux de vivre ensemble, pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques Gauthier tout à l'heure.
Mais est-ce que ce qui plaît aux parents aussi, c'est de retrouver une forme d'autorité, ce retour aux bonnes vieilles valeurs?
Non, enfin en tout cas c'est pas une école de l'autorité, c'est plutôt une école de vivre ensemble. Enfin il y a peu de lieux en France où des musulmans.
C'est pas l'autorité, j'ai vu quand on arrivait en retard ou quoi, il fallait faire des pompes.
Enfin pas, en tout cas pas chez les scouts et guides de France, et normalement pas dans une pédagogie scout de quelle que soit l'association quand elle est bien comprise. Être scout, c'est pas du tout être victime de brimade. Alors évidemment si le chef scout est pas bon, il fera des stupidités.
Oui, parce qu'Abdallah se plaignait qu'on le frappait tout le temps.
Voilà, mais bon. Effectivement, il y a des jeunes qui malheureusement ont une mauvaise expérience dans le scoutisme, mais le scoutisme, c'est pas ça. Le scoutisme, c'est effectivement un lieu de vivre ensemble, c'est un lieu de découverte de la différence. Je crois qu'il faut souligner en France, c'est que la Fédération du scoutisme français, qui regroupe les 5 associations, donc les scouts et guides de France qui sont catholiques, les scouts musulmans de France qui sont protestants, les éclaireuses et éclaireurs de France qui sont laïcs, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France qui sont juifs, et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France qui sont protestants, on a un lieu tout à fait unique en France, où on a 150 000 jeunes qui sont de sensibilités religieuses ou spirituelles totalement différentes et qui vivent ensemble et qui ont des activités ensemble. Donc c'est vraiment le scoutisme, c'est vraiment ce lieu de rencontre de gens qui sont très différents mais qui veulent vivre ensemble le même projet.
Et ce projet, il peut durer sacrément longtemps dans la vie, puisqu'il y a Mamadou qui nous appelle de Bamako, il a 72 ans. Bonjour Mamadou.
Bonjour Sandrine.
Merci de nous contacter sur RFI, qui va porter votre parole partout dans le monde. Alors racontez-nous.
Bon, moi j'ai adhéré au scoutisme en 1958. J'étais au village et en m'admission au bourg, je suis venu à Bamako. Et j'ai adhéré au scoutisme sous la direction du Père Michel, le révérend Père Michel, qui est bien connu au Mali, mais qui malheureusement qui ne vit plus. Et c'est là où j'ai appris d'abord ce que c'est que le scoutisme, c'est lui qui nous a tout appris, que ce soit la formation des troupes, des patrouilles, les catégories les guides qui étaient des filles, les guides elles étaient à part. Et donc les scouts c'était généralement des garçons, faisaient des sorties, tout ce qui concerne le mouvement.
Est-ce que ça vous a accompagné tout au long de votre vie, Mamadou?
Oui, vraiment, parce que c'est très très intéressant. Très intéressant. On apprenait les chansons, et je connais beaucoup de chansons encore. Et finalement, même ça m'a servi, parce que j'ai dirigé après le mouvement de pionniers, parce qu'en 60, au Mali, on a supprimé disons, ça n'a pas été supprimé, on a créé le mouvement national des pionniers. Donc les scouts, les éclaireurs, tous sont adhérés à ce mouvement-là. Et là, c'était en 60.
Alors, oui, Mamadou, on va cesser maintenant parce que la ligne n'est pas trop bonne. On va écouter tout de suite les Innocents qui chantent Harry Nilsson et on va continuer notre tour du monde de ces mouvements scouts. On ira exactement en RDC tout de suite après les Innocents.
Il y a longtemps que l'on attend, que l'on se cherche au milieu des gens. Il pleut, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais rien ne marche, ne se passe comme on veut. Il y a longtemps que l'on attend, que l'on s'espère un peu plus loin devant. En mieux, comme on cligne les yeux, l'un et l'autre un jour assis au coin du feu. Redescendre, bénir mon temps, fin décembre. Qu'on s'arrête à cran. Il pleut à bout portant, il pleut, il tombe, il sombre et on se manque de peu. Il y a longtemps que je t'attends et que tu m'espères un peu plus fort devant. Longtemps que le ciel nous fait bleu, rien ne se passe, ne se casse comme on veut. Redescendre,
dans les 7 milliards de voisins, de voisines, on est ensemble pour parler effectivement de ce mouvement et il se porte très bien en Afrique. Hein. Alors comment recruter aussi de nouveaux jeunes puisqu'il y a des objectifs hein, pour atteindre les 100 millions de scouts dans le monde. Et on a au téléphone Gilbert Moussumba qui est responsable de la Fédération de scouts en RDC. Bonjour Gilbert. Est-ce que vous
bonjour
êtes là
avec... Bonjour les voisins et les voisins.
Alors merci de nous prendre en direct au téléphone, vous descendez tout juste de l'avion à Goma. Alors racontez-nous combien il y a de scouts aujourd'hui en RDC, est-ce que le mouvement se porte bien?
Oui, le mouvement se porte très bien parce que nous avons reçu pour cette raison la visite du secrétaire général de l'Organisation mondiale des mouvements scouts. Il a quitté il y a 2 jours à Kinshasa. Avec le directeur régional. Nous avons 100 000 jeunes à travers le pays. Kinshasa lui-même, il a autour de 15 000 jeunes. Bon, où je me trouve maintenant, il y a 100 jeunes. Et donc, le scoutisme est très bien fait.
Alors, vous avez tout de même des objectifs pour. Vous devez recruter des nouveaux jeunes. Comment vous vous y prenez?
Comme je le disais tout à l'heure, lors de la visite du secrétaire général de l'OMMS, il a rencontré le ministre de la jeunesse et celui-là, et son excellence nous a dit qu'il est déjà en très bonne relation avec le ministère de l'éducation. Nous voulons notamment lancer le scoutisme dans les milieux scolaires et de façon à voir dans chaque école des groupes scouts qui sont créés et cela va nous permettre, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'émission, avec cette vision 2023 d'atteindre 5 millions de jeunes, il faut doubler et nous pensons que d'ici là, nous pourrons atteindre 300 000 avec la création des groupes scouts dans les milieux scolaires.
Mais ça, ça se fait d'aller directement monter des sections dans les écoles? Je vais poser la question à Jean-Jacques Gauthier.
Alors, ça ne se fait pas en France ni en Europe, mais effectivement, dans les pays africains ou en Asie, effectivement, ça se fait. Et bon, il y a un autre cas, enfin un cas qu'on peut citer, c'est l'Indonésie, où il y a un très grand nombre de scouts qui sont, je crois qu'ils sont près de 8 millions, parce qu'effectivement, le scoutisme fonctionne sur un mode scolaire.
Et alors, comment ça va fonctionner dans les écoles chez vous, en RDC?
Oui, en fait, c'est tout d'abord, jusqu'à aujourd'hui, nous avons certains groupes qui sont dans les écoles. Nous avons trois catégories de groupes scouts en RDC. Nous avons des groupes scouts qui fonctionnent dans les paroisses catholiques, protestantes, dans les écoles musulmanes, dans les écoles catholiques. Nous avons aussi des groupes scouts qui fonctionnent dans les entreprises. Nous avons...
Ah ben là, la ligne a été coupée nette. Gilbert Moussoumba, je rappelle que vous êtes le responsable de la Fédération des scouts en RDC. C'est dommage parce que on avait une liaison en
notamment
direct.
Notamment sur le scoutisme en entreprise, on aurait aimé savoir la suite.
On va essayer de le rappeler pour avoir la suite de l'histoire. Est-ce que ça laisse des traces? On le disait quand on a été scout. Est-ce que vous, par exemple, dans la société, vous remarquez tout de suite quand vous rencontrez quelqu'un s'il a été scout ou pas, Nicolas Bertrand?
Je suis pas sûr qu'il y ait une marque de fabrique. Je crois que ceci étant, ça laisse quand même quelques traces. Je pense à des personnes autour de moi qui travaillent en entreprise, notamment dans les services de ressources humaines. Souvent, c'est des questions sur lesquelles on peut aller. Je dis pas que le scout est le parfait futur employé, mais le scoutisme, on le disait tout à l'heure, développe l'autonomie, développe la prise de responsabilité, développe le travail en équipe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est des compétences comme celle-là qu'on peut rechercher dans les entreprises.
Alors, on parlait d'entreprises. Gilbert Moussoumba, vous parliez de scoutisme aussi dans les entreprises. Je crois que la ligne est rétablie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là?
Oui, donc dans les entreprises, il y a des groupes scouts. Il y a aussi des groupes scouts indépendants qui sont... créé dans les quartiers, dans les villages, par une personne ou un groupe de personnes. Et pour fonctionner, notamment dans les écoles, c'est que le groupe est créé par des jeunes adultes ou par les enseignants qui ont été scouts. Et nous, notre rôle, c'est d'organiser des formations sur la pédagogie scout. Une fois que ces enseignants sont formés, ils commencent à animer ces groupes scouts, mais sous le parrainage des responsables de l'école. Voilà comment ça fonctionne.
Et alors, qu'est-ce qu'on apprend surtout et avant tout en RDC, par exemple? Donnez-nous quelques exemples concrets.
Pardon?
Donnez-nous quelques exemples concrets pour savoir ce qu'on peut faire quand on est scout en RDC, Gilbert.
Oui, quand on est scout en RDC, la première chose, c'est qu'on sait qu'un scout doit toujours, chaque jour, faire une bonne action quotidienne. Et en plus, il y a des activités qu'ils organisent. J'ai vu Raymond du Burundi qui a parlé du projet Amahoro Amani. C'est un projet que nous développons au Rwanda, au Burundi, au nord et au sud Kivu, par les scouts. Et ces scouts-là, ils s'organisent pour développer leur quartier, leur communauté, en termes de la protection de l'environnement, en termes de promotion de la paix, en termes d'assainissement. En fait, nous faisons du scoutisme communautaire. Alors, vous trouvez des scouts qui ont des champs où ils cultivent, dans le cadre du projet Aliments pour la vie. Vous trouvez des scouts qui développent des activités d'entrepreneuriat pour l'autonomisation de leurs jeunes.
Et hop, la ligne s'en est allée. Écoutez, merci beaucoup Gilbert Moussoumba pour toutes ces informations sur le fonctionnement de la Fédération des scouts en RDC. On va terminer avec le mouvement là que vous allez le rassemblement Europe qui se tiendra à Strasbourg du 16 au 23 juillet. Nicolas Bertrand, vous attendez 50 000 jeunes. 15 000. Ah non, 50 000, non 30 000. J'ai vu qu'il y avait un nouveau aussi un mouvement mondial au mois d'août au Japon.
Un jamboree,
un rassemblement au Japon. Mondial au Japon. Il y en a un tous les 4 ans. Qui regroupe des scouts représentant des 162 pays. Mais à Strasbourg, on sera que, ou déjà 15 000, ce qui est déjà bien, et surtout 28 nationalités présentes autour de l'engagement citoyen, autour de...
Qu'est-ce que vous allez faire alors? Parce que ça fait du monde quand même.
Quelques exemples, un jeu de pistes autour de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, comment l'Europe s'est construite sur la volonté de paix à l'intérieur de la ville de Strasbourg, une journée action dans la cité avec des jeunes qui vont aller aux côtés du souvenir français, dans un devoir de mémoire peut-être, nettoyer des monuments aux morts et des cimetières militaires, des jeunes qui vont aller recenser dans les lieux de Strasbourg, des lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. Oui, peut-être que les adolescents ont encore envie de s'engager aujourd'hui.
Vous y serez aussi, Jean-Jacques?
Oui, tout à fait. C'est une grande manifestation qui va contribuer largement à me faire connaître le scoutisme en France et les scouts et guides de France en particulier.
Merci beaucoup, en tout cas tous les deux, d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je rappelle donc Nicolas Bertrand de Scouts et Guides de France, directeur du rassemblement Europe qui se tiendra à Strasbourg du 16 au 23 juillet. Il y a un site internet qu'on peut consulter.
Oui, www.sgdf.fr.
Et Jean-Jacques Gauthier, donc historien du scoutisme, vous êtes membre du conseil d'administration de Scouts et Guides de France et vous avez publié Idées reçues, ça c'est la collection Les Scouts. Il y a effectivement beaucoup d'idées reçues à combattre. Vous avez pu vous exprimer sur cette question pendant l'émission. Merci encore.
Merci à vous.
Merci.
Et demain, vivre avec un ado. Voilà, comment.
Voilà.
C'est la suite logique. Faut-il trouver un nouveau langage pour s'entendre et se comprendre? C'est vrai que c'est une période de désordre. Comment mieux la traverser? Pourquoi pas? En étant scout, ça aide.
Absolument. Pour les aider.
Ça aide la crise d'ado. Ça aide à traverser la crise d'ado. Vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. D'ici là, portez-vous bien. We'll be right back.